dissonance.
Trois fois par mois, histoire de voir les choses autrement, sous un autre angle ou dans une autre perspective, nous ferons ensemble un pas de côté pour prendre le temps d'écouter des parcours de vie. Des parcours vécus par des gens comme vous et nous, des voix dissonantes, des voix d'hommes et de femmes qui portent un éclairage différent sur nos rêves et nos folies.
Dissonance.
Joseph Hula
et Dany Joulier.
J'ai envie de parler des gens dont l'art ne parle jamais. En général, quand je fais une exposition, on me demande toujours de parler, alors je dis non, ce que je fais doit se défendre tout seul. Dans une grande installation, il y avait une vitrine, alors il y a des gens qui disaient, mais on a vu les couleurs, on est rentré, on s'est dit, et puis, pam, ça nous est tombé dessus, quoi. Dans une famille, quand il y a eu un événement comme l'obligation de mon grand-père de fuir l'Italie parce que le fascisme, c'était un grand maçon, un de ces ouvriers qui travaillait dans toute l'Europe, qui était cultivé, qui parlait plusieurs langues, tout ça, et puis qui était anarcho-syndicaliste, c'est-à-dire Mussolini les considérait comme ses pires ennemis, quoi. Mes parents n'étaient pas très contents de me voir m'orienter vers la carrière artistique.
C'est un ami breton qui le premier m'a parlé d'Alain Marcon en me disant « Ce serait bien si Dissonance réalisait un entretien avec un sculpteur que je connais depuis une quarantaine d'années. Il se nomme Alain Marcon. C'est l'une des figures artistiques vivantes et majeures de cette région des Côtes d'Armor, où il vit. Il a 77 ans et est toujours actif. Cela pourrait être bien que tu fasses un entretien téléphonique avec lui sur son parcours et ses réalisations. C'est un homme passionnant. » Je me suis donc plongé dans l'œuvre d'Alain Marcon, ce qui m'a conduit à suivre les pas, la trace d'un sculpteur, d'un mosaïste, d'un dessinateur, d'un graveur, d'un conteur d'histoire en volume, en bref, d'un homme atypique à plusieurs titres. Atypique, disais-je, car en découvrant ses œuvres, j'ai été frappé par leur dimension. Allant de l'immense au plus petit format, leurs couleurs vives, leur étonnante présence, les dialogues qu'elles font émerger entre l'auteur, l'œuvre et le spectateur. Le partage auquel elles invitent, leur lecture à plusieurs niveaux, leurs incitations au déplacement, mais aussi et surtout à la réflexion. Oui, car Alain Marcon est un artiste de son temps. Un artiste, un artisan, un conteur sur bois et autres matériaux, tant ses œuvres témoignent, dialoguent et racontent. C'est un créateur qui, de la grève du Juin français, en passant par la montée du nazisme jusqu'au génocide mené en Palestine actuellement, est un témoin de notre temps. Il se confronte à l'histoire, à ses blessures, mais aussi à ses poètes comme Prévert, à ses auteurs comme Louis Guillou, à ses philosophes comme Épicure. Eh bien, nous y voici, homme de défi, homme de résistance, homme de dialogue, Alain Marcon a accepté de se dévoiler au micro de Dissonance. Aujourd'hui, en communication téléphonique depuis la baie de Saint-Brieuc, depuis le village de Ploua, très exactement, Alain Marcon est avec nous. Bonjour Alain Marcon.
Bonjour.
Alain, nous allons tenter pendant cette heure de discussion et d'échange de découvrir ce qui, depuis 77 ans, vous fait avancer, vous pousse à créer, vous amène encore aujourd'hui, après tant d'années de création, à vous saisir de votre maillet, de votre gouge, pour nous révéler votre vision du monde.
Alain Marcon, sculpteur d'histoire, homme de défi et de résistance, sur Dissonance.
Alain, d'où venez-vous exactement ?
Alors, je suis né en Normandie, dans la Manche, à un petit bourg qui s'appelle Torigny-sur-Vire, où mon père, en fait, faisait la reconstruction. Voilà. Vous comprenez, c'était juste après la guerre, quoi. Voilà.
Et cette envie de création remonte à quel âge dans votre petite enfance ? Très tôt ?
Alors, oui, enfin, non, je dirais que le contact avec la sculpture, pas proprement parler, c'est 7-8 ans, quoi. Mais mes parents disaient toujours que j'avais des crayons de couleur, enfin, une boîte de crayons de couleur, que je passais une partie de mon enfance, mes loisirs à dessiner, quoi, voilà. L'attrait pour le bois, c'est différent. Je suis né dans mon père était maçon. Hein ? Oui. Il était artisan, il avait monté une petite entreprise, il avait 9-10 ouvriers. Et c'est donc un milieu extrêmement matériel, quoi, si vous voulez, surtout après la guerre, parce qu'on n'allait pas acheter les parpaings chez un fabricant de parpaings. Il y avait le vieux Paul qui était toute la journée à fabriquer des parpaings de toutes les tailles, des tuyaux, des trucs comme ça. Et à partir de l'âge de 7-8 ans, mon père avait racheté à un ami à lui les machines de menuiserie, parce que cet ami était menuisier, et puis il est parti, on lui avait proposé un poste qu'il a pris, il lui a vendu son atelier. Et donc on avait un menuisier dans le chantier, quoi, voilà. Un brave gars, un gars formidable, monsieur Alexandre, et moi je faisais ce que je voulais dans son atelier, quand il me prêtait des outils, on me laissait même travailler avec des machines, qu'aujourd'hui il n'y a pas un parent qui accepterait de faire ça, quoi. Hein. Bon. Mais, non, j'ai même failli laisser un bras, ça n'effarait personne qu'un gamin de 7-8 ans travaille à la grande scie circulaire, quoi. Enfin, à la grande scie à ruban, quoi. Voilà. Je suis né dans un milieu, si vous voulez, où il y a en permanence du ciment, du sable, du gravier, des choses, du bois, de voilà, c'est ça, c'est et puis on était comment dire, une entreprise, mais on vivait au milieu des fermes. Donc, c'est vrai, autour de nous, il y avait des fermes. Donc, mes copains, par exemple, c'était aussi, je veux dire, un monde, rempli d'animaux, de choses extrêmement matérielles, quoi, voilà.
Et donc, vous vous sentez plus, en ayant vécu dans ce milieu-là, au milieu des machines, et des parpaings et du ciment, plus artiste qu'artisan ou plus artisan qu'artiste ?
Oh, les deux, mon colonel.
Les
non,
deux.
Parce que surtout dans la sculpture, il y a un aspect quand même très artisan, quoi. Hein. Je me sens quand même artiste, si vous voulez, mais il y a quand même tout un côté technique, quoi, qu'il faut savoir pour arriver à faire, quoi. Voilà. Vous me posiez la question, le premier contact avec la sculpture.
Oui.
Alors là, c'est dû à quelque chose de particulier. Ma mère, elle est née pas loin de chez vous, là, à Lisle-sur-Tarn. On allait en vacances chez mes grands-parents. Chez qui, d'ailleurs, j'avais passé les 4 premières années de ma vie, parce qu'en Normandie, ils n'avaient pas de place pour me garder. Mon père venait nous chercher, parce qu'il avait une voiture désormais. Il restait que 3-4 jours, parce que, si vous voulez, disons qu'avec son beau-père, c'était pas facile. Mon grand-père était un vieux de 14 qui avait soutenu Pétain, et mon père a fait 2 ans de maquis, et puis tout le reste de la guerre, il était sous-officier de l'autre. Et donc, ces deux hommes-là avaient des contacts un peu difficiles, quoi. Et du coup, mon père, il sortait avec moi, on partait en voiture, et il m'a amené à Moissac. Et donc, lui, il allait plutôt voir les beaux assemblages de pierres, de trucs comme ça. Il était plus sensible à ça qu'à la sculpture. Mais moi, j'ai découvert le tympan de Moissac, quoi, et puis le cloître, quoi. Enfin, tout ça. Donc là, le premier vrai contact, il m'a amené aussi à Saint-Sernin, par exemple, à Toulouse, ouais, donc la porte Miégeville, quoi, des choses comme ça. Et ça fait que là, c'est mon premier contact, quoi, avec la sculpture. Alors je vais essayer d'en faire dans l'atelier, quoi, dans l'atelier de menuiserie, parce que monsieur Alexandre me prête des outils, quoi.
Ah ouais. Et vous êtes passé directement à la sculpture, parce que l'autre jour j'ai vu une vidéo, on mettra le lien dans la page internet, mais on voit que vous êtes en train de réaliser une immense sculpture en bois, mais d'abord vous passez par l'étape du dessin,
après
la petite maquette, après la terre, après le plâtre, après le bois.
Ah oui, mais ça c'était le oui. Mais enfin là c'était le guillou dont vous voulez parler.
Oui, c'est ça.
Oui, mais là,
confrontation.
C'était quelque chose de compliqué d'aboutir, donc il y a des étapes, quoi.
Mais donc là, vous avez commencé par le dessin avant de prendre le maillet et la
bouche. Oui, il y a toute une série de dessins. Et il y a même le guillou, là, ça a remonté assez loin. J'avais déjà fait un projet lors d'un concours, et puis ça n'avait pas abouti. Et donc, ça a donné l'envie aux mécènes, au groupe groupe de construction qui m'a mécéné sur cette affaire-là. Voyant la maquette de cette époque-là, ils m'ont demandé de travailler là-dessus. Et donc, je passe par des toutes sortes de dessins. Et puis, en général, il y a une maquette, et même deux maquettes. Là. Il y a eu au moins deux maquettes dans le guillou.
Mais pour le petit Marcon, là, de 8-9 ans, il a commencé à griffonner avec un crayon, et son papa a vu qu'il y avait une fibre artistique. Avant de passer à la sculpture, oui ?
Oh non, j'ai griffonné bien avant.
D'accord, avant les 8-9 ans, d'accord.
Oui, 8-9 ans, je fais déjà... Alors, c'est assez amusant. Ma mère, à la mort de ma mère, bon, on a retrouvé dans la maison mes frères et sœurs m'ont ramené des trucs en me disant, tiens, c'est toi qui as fait ça quand t'étais gosse, et maman les avait gardés. Enfin, oui, vers 8-9 ans, je commence à tailler le bois, quoi.
Donc, vous êtes un vrai autodidacte. Jamais d'école, jamais de...
Si, je fais les beaux-arts. Non sans résistance, mes parents n'étaient pas très contents de me voir m'orienter vers la carrière artistique.
Mais oui, parce que vous êtes le premier dans votre famille à choisir cette voie.
Oh ben oui.
Ouais. Et alors, comment ils ont réagi? Donc un peu réticents, mais...
Disons que, bon, j'étais... Plus tard, j'ai quand même, j'étais un adolescent un peu difficile, vidé du bahut, des trucs comme ça. Alors je travaillais dans l'entreprise de mon père, il n'était pas tout à fait décidé à me laisser partir faire les beaux-arts. Quand il a découvert qu'à Rennes, il y avait une formation qui permettait de devenir professeur de dessin. Et du coup, il m'a dit, bon, bah, limite, tu peux peut-être faire ça, quoi, voilà. Donc, j'ai fait 4 ans à Rennes, avant évidemment 68, et à la suite de 68, on m'a viré. Bon, bah, on a occupé l'école, pauvre.
Ah oui, d'accord, déjà des prémices.
Ouais. Ah, okay. Oh, c'était pas des prémices, à 17 ans, j'étais déjà très engagé, quoi.
Et vous étiez déjà aussi un jeune adolescent qui aimait beaucoup les livres, puisque vous avez parlé, même vous l'avez rencontré, peut-être, ou croisé, Louis Guillou, je crois.
Oh, croisé, c'est tout.
Hein. Croisé, mais vous aimez beaucoup Prévert, Jacques London, Baudelaire, Épicure, qui est un philosophe.
Épicure, oui, Lévinas, enfin
Emmanuel
tout ça.
Lévinas. Et puis aussi, vous étiez déjà quelqu'un qui s'intéressait à l'art à travers Goya, Zadkine, Spiegelman.
Oui, surtout Zadkine, à l'époque. Je n'ai même pas osé lui parler. Une fois, je me suis retrouvé à côté de lui, à Caylus. Zadkine, oui, c'est-à-dire, quand j'avais 17-18 ans, je pense que c'était pour moi un des sculpteurs les plus importants. Bon, après, ça va se diversifier, je veux dire, voilà, c'est...
Oui, et après, l'influence qui est importante chez vous de l'histoire sociale,
bah, le monde ouvrier, si vous voulez... Moi, je l'ai fréquenté parce que dans l'entreprise de mon père, à partir de l'âge de 13 ans, par exemple, je travaillais l'été.
Oui, c'est
dans l'entreprise, avec les gars.
C'est votre monde, oui, le monde ouvrier.
C'est mon monde, si vous voulez. C'était oui, voilà, moi, je travaillais donc avec les gars. D'ailleurs, j'étais c'est assez remarquable, j'étais... Mon père trouvait que je restais à rien foutre, c'était pas terrible. Mais moi aussi, je trouvais ça assez formidable d'être avec sur le chantier. Et figurez-vous, j'étais payé.
En plus.
Ce qui faisait de moi, j'avais un petit salaire, pas le même salaire qu'un maçon, mais j'étais payé. Mon père trouvait normal que j'ai une paye, quoi. Ce qui faisait de moi un adolescent un peu à part, un peu privilégié, parce que je pouvais m'acheter des disques, je pouvais m'acheter des bouquins. Hein, c'était Il y a des gens qui sont choqués par cet aspect de mon père. Ils me disent que c'était une formation quasiment capitaliste. Et je dis non, moi, c'était formidable, quoi.
Les jeunes de votre âge que vous côtoyez aux Beaux-Arts, ils venaient pas de ce monde-là, de ce milieu ouvrier, si ?
Oh non, du tout, non.
Et vous êtes une espèce de transfuge de classe, alors, en fait. Vous allez vous retrouver à côtoyer des gens qui ne viennent pas de votre propre monde.
Ah bah oui, ça c'est normal. Ceci dit, transfuge de classe, vous savez, au fond, un artisan, ça reste quelqu'un qui a une mentalité ouvrière. Hein. Et mon père, c'était ça, quoi, hein. D'accord, c'était un petit patron, mais... voilà, et puis c'était un étranger. Hein. Mon père est né en Italie.
Plus tard, quand vous avez eu de la notoriété, comment vous ont perçu ces personnes que vous aviez côtoyées et qui viennent du monde ouvrier?
Oh ben, je sais pas. Je pense pas qu'ils me pensent comme quelqu'un de différent.
Vous êtes des leurs, puisque vous racontez leur histoire.
J'ai envie de parler des gens dont l'art ne parle jamais.
Vous évoquez ce monde des migrants, ce monde des réfugiés, des exilés, un thème qui revient souvent chez vous.
Ah oui, mais ça c'est... Vous savez, ça, c'est dans une famille, quand il y a eu un événement comme l'obligation de mon grand-père de fuir l'Italie, parce que le fascisme, c'était un grand maçon, un de ces ouvriers qui travaillait dans toute l'Europe, qui était cultivé, qui parlait plusieurs langues, tout ça, et puis qui était anarcho-syndicaliste, c'est-à-dire Mussolini les considérait comme ses pires ennemis, quoi. Il a été obligé de fuir, donc il a réussi à faire suivre sa famille, et donc il avait créé une petite entreprise dans les Côtes d'Armor, à côté, là, de Saint-Clé.
Donc vous avez des origines libertaires, alors, quelque part?
Oh ben, c'est un anarcho-syndicaliste.
Mais tout à fait, c'est pour ça. Et on retrouve ça. Et pour revenir à ces thèmes, on évoquait le thème des réfugiés, dans vos tableaux, quand vous évoquez ce thème, on se dit, mais ça va être un tableau qui raconte un tableau noir, un tableau gris, un tableau qui raconte l'horreur que vivent ces gens-là. Mais pourtant, dans ces tableaux, il y a toujours des couleurs. Il y a deux lectures dans toutes vos sculptures. Il y a d'abord ce qu'on voit, c'est le noir. J'ai le souvenir d'une espèce de vautour, quelque part, là, hein, dans un tableau. Et quand on regarde à l'intérieur, parce qu'il y a toujours un intérieur dans vos sculptures, on y trouve autre chose, avec des couleurs. Toujours les deux facettes. Vous travaillez souvent avec des oppositions.
Vous parlez d'un temps de retour.
Oui, c'est ça.
En fait, vous avez l'impression qu'il y a cette forme noire, mais c'est juste, il y a que la forme. À l'intérieur, il y a l'image de ces gens sur un bateau qui sont en train de quasiment de sombrer, quoi, vous voyez. Mais c'est une image qui a été en première page du Monde et qui avait même cette particularité d'être extrêmement colorée, parce qu'il y avait l'orange de leur gilet de sauvetage, il y avait le rouge du bateau, enfin, vous voyez, quoi.
Comment on arrive à mettre des couleurs sur quelque chose d'aussi noir?
Je sais pas. Ouais. Non, c'est... Bien sûr que c'est noir, mais c'est aussi des gens vivants.
Et j'admire cette façon que vous avez de dans un langage décalé, de travailler ces oppositions en prenant le contre-pied.
Oui, mais ça c'est une remarque qu'on me fait assez souvent. On faisait avec un collègue sculpteur une exposition à côté de Saint-Brieuc, là, dans une grande installation. Il y avait une vitrine. Alors il y a des gens qui disaient, mais on a vu les couleurs, on est rentré, on s'est dit, et puis bam, ça nous est tombé dessus, quoi.
Oui, vous avez raison quand vous dites ça nous est tombé dessus, parce qu'en fait, il y a une première approche, on voit une sculpture, il faut que je le dise pour les auditeurs, mais vos sculptures, il y en a des grandes, il y en a des petites, mais on voit une forme globale qui peut être un personnage ou autre, mais après, il faut rentrer à l'intérieur, parce que vous sculptez vous êtes très inspiré des paysages de Bruegel, de Jérôme Bosch, etc. Il y a un monde de grand, première lecture, et puis après, à l'intérieur, il y a plein de petites choses qui se racontent, et puis même si on fait le tour de la sculpture, il y a d'autres choses qui se racontent.
C'est l'inverse de l'art cinétique. L'art cinétique, c'est des choses qui bougent devant vous. Moi, j'oblige les gens à bouger.
Complètement. C'est impressionnant. Pour moi, vous êtes un sculpteur d'histoire. Voilà, je dirais même...
Ouais, un imagier, quoi.
Ouais, mais vous savez les mettre en scène.
Ah ben, c'est vous qui le dites. Hein.
Et quelles sont les histoires que vous préférez raconter?
J'ai pas vraiment d'histoire que je préfère raconter. C'est souvent les choses naissent d'un contact, de la vision d'une image, des journaux. Ouais, voilà, c'est ça. Les choses se mêlent, je ne sais pas trop comment. Et puis je finis par me mettre à dessiner, quoi.
Alors, à propos de votre démarche, moi je l'aperçois comme ceci. Je pense qu'on retrouve dans vos œuvres un premier plan, puis à travers une fenêtre, on découvre autre chose. Vous remplissez le vide de la fenêtre, un peu comme dans la série des pigeons de Picasso. On part de l'extérieur pour aller vers l'intérieur, ou vice-versa, oui. Car après, la vision de l'intérieur nous donne une autre vision de l'extérieur et de toute l'œuvre en général. On retrouve ça dans une œuvre magnifique, Les Vautours, que vous venez d'évoquer, mais aussi dans L'Homme qui marche ou dans Jacques Prévert. On y voit le corps du poète, mais pas complet, anatomiquement parlant. Il est rempli d'espace.
Il y a des gens qui détestent ça. Il y a des gens qui détestent le fait que je perce en quelque sorte, je mets des choses à l'intérieur du corps humain, quoi. Ah oui, j'ai des réactions, même dans des proches qui sont des amis, qui n'aiment que quand je fais des choses où il n'y a pas trop cet aspect pénétré, quoi.
Ah mais c'est ce qui fait votre...
Moi je pense que c'est ce qui fait les caractéristiques de mon travail.
Oui, complètement. Ouais. Ça fait des œuvres à plusieurs niveaux de lecture, avec des cassures, des passages. Je pense à Walter Benjamin, qui était aussi quelqu'un qui travaillait beaucoup sur les passages. Ça fait des passages, des césures.
Oui, écoutez, c'est venu assez... La première sculpture qui utilise véritablement complètement ce principe, c'est le Prévert. Ah. Alors, un Prévert qui est dans une collection privée aujourd'hui, j'avais fait quelque chose. À la mort de Prévert en 77, j'avais fait un bas-relief, mais j'étais pas content parce que je surimposais, si vous voulez, le portrait de Prévert avec des évocations, des trucs, ça fonctionnait pas bien, quoi. Et même si une amie à moi quand elle m'entendait dire ça, elle serait pas contente parce qu'elle l'adore. Mais je me suis dit de quoi. Un jour, c'est arrivé comme une espèce de choc. Je me suis dit mais de quoi est fait la chair du poète de ses poèmes, quoi. Alors je viens de terminer un Prévert. Je crois que je vous l'ai envoyé.
Oui, en photo.
Mais là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est autour, sur un poème, quoi. Là, c'est quand on fait le tour de la sculpture en deux, trois fois, on déroule tout le poème dessus, puis l'évocation des images qui suscite, quoi. C'est sur que la fête continue. Un grand plombier distingueur sur le coup de 10 heures, enfin voilà.
C'est aussi une œuvre très très colorée. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, un petit peu la couleur. Je pense, moi, à une œuvre où... je ne sais pas si elle est très colorée. Vous avez fait une œuvre qui s'appelle Cerber Land,
où on y retrouve l'univers de Spiegelman.
C'est très très noir, hein.
Oui. Ça, j'ai fait ça parce que j'ai découvert quelque chose un jour en lisant un article. J'apprends que le goulag, vous savez, vous savez ce que c'est. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, c'est une sorte. Il y a des camps qui ont été transformés en des sortes de Disneyland. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont passer des week-ends là-dedans, ils arrivent à un endroit, on les fait descendre du train, on les habille en zec, on leur fait faire des conneries, on les nourrit mal, tout ça, et figurez-vous qu'il faut retenir à l'avance pour aller vivre ça.
D'accord.
Alors j'ai imaginé, en quelque sorte, qu'on privatisait l'enfer, Cerber, quoi.
Ah oui, complètement, Cerberland. Hein,
et voilà, on privatise l'enfer, d'ailleurs... Il y a une barque qui amène devant, si vous regardez la photo, il y a une barque qui amène les gens dans cette espèce de GN là, et dessus le passeur, c'est Picsou. L'argent, c'est quand même effarant, quoi, qu'on transforme des drames comme ça en un parc d'attractions, quoi.
Ce sont des vieux bouts de ferraille où la rouille a fait son travail de rongeur qui repose au fond d'un jardin du repos des derniers témoins de sueur. Celle au creux des mains sur le front jadis d'un meunier, d'un maçon, d'un semeur. De vieux outils pour plus un clou qu'il est seul à rêver debout, le sculpteur. Loin de la force de leur âge, qui les a vus mettre à l'ouvrage tout leur cœur. On les dirait presque étonnés que trouvant tant de beauté, le sculpteur. Sans les changer ni même un peu, ni par le fer, ni par le feu du forgeur. Il sait pour faire un avenir que garder vaut mieux que détruire, le sculpteur. Étonner la dame à la foule d'apprendre qu'elle sera berceau du sauveur. Au fond de leurs yeux gris métal, il en fait briller des étoiles, le sculpteur. Étonné sorti d'une manche, ses ciseaux qui roulent des hanches de danseur. Et ses amoureux enlacés qui semblent ne plus former qu'un seul cœur. Ce sont des vieux bouts de ferraille où un homme a fait son travail de sculpteur. Pour que s'en aille un peu de joie de Saint-Antoine et de Cigare vers ailleurs. Dans leur combat contre le temps, on sait déjà que ces enfants sont vainqueurs. De ce chagrin qu'il donne en moins à ceux qui croisent son chemin, le sculpteur.
Alain Marcon, sculpteur d'histoire, homme de défi et de résistance, sur Dissonance.
On a parlé du noir avec cette œuvre, de la couleur, mais aussi souvent dans vos bas-reliefs, vous laissez la texture du bois visible, oui. Sans y ajouter de la couleur. C'est important, ça aussi?
Ah ben, c'est vachement important. Là, c'est très très important, parce que le bois, c'est déjà une couleur, vous comprenez?
Oui.
C'est déjà une matière. Puis ça, bon, ça dépend quel bois on travaille aussi. Voilà. Parce que, bon, moi je travaille presque plus qu'avec du tilleul.
Hein. D'accord, vous expliquez que parce que le tilleul n'a pas de tanin, et donc la couleur...
Voilà, la couleur, quand on travaille le chêne, par exemple, le bonnet rouge, c'est du chêne, mais auparavant de mettre la couleur, il a fallu passer toutes les surfaces avec un enduit blanc, quoi, pour éviter les remontées de tanin. Et puis... Alors, par exemple, le joint français, c'est du frêne. Mais je travaille plus le frêne parce que le frêne, ça reste vivant. C'est affreux, ça bouge tout le temps, quoi. Mmh. Et dernièrement, par exemple, il m'est arrivé, l'homme qui marche, qui est en mauvais état, il va falloir que je le restaure. Je l'expose à la demande d'un groupe. Ils me disent pas que c'est un chauffage par le sol. On le pose par terre et il s'est craquelé, quoi. Voilà. Hein, donc je travaille plus que le tilleul parce qu'il bouge beaucoup moins. C'est un grain très fin. Si, c'est très agréable, quoi.
Tout à l'heure on parlait de mise en scène. Vos œuvres, elles obligent, on l'a dit, le spectateur à bouger, à tourner autour, à se déplacer pour en apercevoir les détails, pour en découvrir les différentes faces. C'est un choix? C'est voulu.
Ah oui, c'est voulu, ouais.
C'est voulu, donc il faut que la sculpture soit placée dans un endroit où on puisse bouger autour.
Voilà,
voilà.
Quand je fais une expo, par exemple, il faut que je réfléchisse à ce que les gens puissent tourner autour, quoi. C'est-à-dire que je peux pas montrer, c'est jamais d'une grande densité, quoi.
Vous êtes passé de la sculpture où vous faites tourner les gens autour, et on l'évoquera tout à l'heure, à cette immense fresque du joint français où il faut avancer pour lire.
On peut pas en avoir une perception globale. Il faut un mouvement.
J'ai l'impression que vous nous apprenez à lire le monde. Vous nous invitez à avoir une lecture du monde différente. Vous nous apprenez à décrypter, à analyser en profondeur, à ne pas s'arrêter aux apparences des choses.
Oui.
Et vous dites que c'est conscient pour vous de cette
histoire. Ah oui, ça c'est conscient, oui.
Et vous, c'est venu comme ça, parce que ça je ne le retrouve pas ailleurs. Il me semble des fois dans des tableaux de Jérôme Bosch, où vraiment il faut avoir une lecture et puis après se plonger
dans Bruegel.
Ou dans Bruegel, oui.
Oui, alors... la montée au calvaire.
Voilà, ouais.
Hein, c'est un tableau, il faut sans arrêt aller d'un bord à l'autre. Voilà, c'est... Au départ, quand je fais les bonnets rouges, mon paysage, c'est presque du décor, quoi. Les arbres, c'est des sucettes, quoi.
Ouais.
Et puis, peu à peu, je vais trouver un intérêt à faire un paysage qui qu'il y ait une lumière précise, qu'il y ait peut-être une saison précise, des choses comme ça, parce que ça fait partie de l'expression, quoi. Par exemple, voilà, vous n'avez pas l'orage, par exemple, que je viens de faire, c'est... c'est le moment des vendanges, c'est bon. Le paysage est devenu de plus en plus important. Il y avait un conservateur de musée à Vannes qui avait titré un texte sur moi, Humain paysage. D'ailleurs, le texte, il ouvre mon site internet.
Il y a aussi quelque chose d'important chez vous, c'est l'influence de la peinture chinoise avec l'importance du vide.
Oui. Alors c'est plus tardif, cette découverte de la peinture chinoise. Hein. C'est pas, j'ai largement 30 ans quand je commence à m'intéresser à Shitao. Vous parliez tout à l'heure du fait que je laisse le bois par endroit.
Oui.
Quoi. Mais les Chinois, quand vous regardez un paysage de Shitao, ils vous laissent le blanc de la soie ou du papier, qui joue ce vide joue un rôle. Quoi, voilà.
Et pour vous, ce blanc du papier chinois, c'est votre texture du bois, alors?
Voilà, oui, si on veut, oui.
Et vous vous en servez donc comme une couleur, comme un paysage.
Voilà, comme une couleur, c'est comme un élément actif.
Voilà, donc le vide n'est pas rien. Encore, vous travaillez sur les oppositions, là aussi. Vous remplissez les vides.
Je les rends actifs.
Alain Marcon, sculpteur d'histoire, homme de défi et de résistance, sur Dissonance.
On tourne autour depuis tout à l'heure, mais moi, la première approche chez vous, ça a été de tomber en admiration devant cette œuvre magnifique qui est ces 12 panneaux de 1,50 m, c'est ça?
Non, 12 panneaux d'un mètre.
12 panneaux d'un mètre.
1,40 m de haut.
Voilà. Hein,
par 1 mètre de large. Donc ça fait 12 mètres par 1,40 m.
Et ça fait une fresque demi-circulaire immense, mais outre la technicité, outre la maîtrise du geste, c'est le contenu aussi qui m'a semblé important. C'est que vous racontez une grève.
Oui, et pas n'importe
et
laquelle.
Pas n'importe laquelle. Parlez-nous-en.
Avec l'IPS, c'est les grandes grèves des années 70, quoi.
Voilà, ouais. Puis il y a eu le Larzac aussi, mais c'était pas des ouvriers.
Oui, il y avait
le
Larzac,
vrai.
Oui.
Ouais, ouais, ouais. Mais c'est magnifique. Qu'est-ce qui vous êtes c'est de la sculpture sociale, engagée.
Engagée, bien sûr, oui.
Engagée. Et pourquoi ça vous est venu comment là de se dire tiens, je vais raconter cette grève, je vais en faire 12 panneaux, ça va être immense. Ça
alors
vous
pose la. J'ai commencé, disons, dans les années. J'avais fait les bonnets rouges déjà, qui était quand même un rapport à l'histoire assez précis. Et puis, de toute manière, par exemple, moi j'étais au comité de soutien à Rennes, au Juin français. Donc j'étais d'emblée assez engagé dedans, quoi.
Ah, il faut rappeler cette grève, donc c'était des ouvriers de l'usine du Juin français à Saint-Brieuc. Et elle a duré 8 semaines.
De 8-9 semaines.
Voilà, de février 72 au mois de mai.
Ouais. Il faut replacer, on est dans la suite de 68, quoi.
Complètement, ouais, c'était les années
70. Et on est aussi à un moment crucial en Bretagne de la mutation de la population qui était essentiellement une population rurale, si vous voulez. les fermes s'agrandissent, les enfants ne peuvent plus rester à la ferme parce que c'est trop petit, tout ça, et ils vont travailler à l'usine, quoi.
Oui, à l'usine, ou alors, comme disait Gilles Servat, devenir CRS, dans une chanson.
Voilà. Il y en a un qui devient CRS et l'autre qui va travailler à l'usine.
Oui, d'ailleurs, il y a cette fameuse photo hein, où on voit deux copains d'enfance, un CRS et un ouvrier. Et l'ouvrier qui lui dit, mais vas-y, tape-moi dessus si tu l'oses.
Hein. Il a pris le CRS par le coup, il a secoué, quoi. Je l'ai bien connu, ce gars-là.
Et vous le reproduisez dans votre fresque.
Il est interdit d'interdire. Le rêve est une réalité.
FR3, Bretagne.
Les manifestants de mai 68 voulaient changer le monde. Ils ont semé ici et là des graines de contestation. En Bretagne, elles ont germé très vite, comme ici, au Joint français.
C'est l'histoire d'une photo qui a changé l'histoire. L'histoire d'un instant, d'un regard, d'une amitié.
Il y avait les CRS d'un côté et puis nous de l'autre, quoi.
Guy Burniaud.
Et c'est là que j'ai reconnu mon copain, parce qu'on avait été vraiment, vraiment copains ensemble, quoi. À l'école, on était tout le temps ensemble. Et les CRS ont chargé. Et puis moi, juste à ce moment-là, j'ai vu mon copain. Alors j'ai croché comme ça, puis je lui ai dit, vas-y, puisque t'es là pour ça, vas-y, tape-moi dessus, parce qu'il avait sorti leur matraque. Et puis bon, ben lui, il m'a dit, mais non, je ne veux pas te taper dessus.
Guy Burniaud n'a pas vu le photographe, pas entendu le clic de l'obturateur. Le 6 avril 1972, cela fait un mois qu'il est en grève, un mois que la direction du Joint français refuse de négocier.
Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour vous dire, voilà, je vais faire une fresque de 12 mètres de long
Et tout raconter. J'ai peut-être que... D'une part, j'ai aussi le goût des travaux à long terme.
Vous avez mis combien d'années
Oui, mais non, voilà, s'il fallait que j'imagine quelque chose tous les jours, je crois que ça ne me viendrait pas, quoi, vous comprenez?
D'accord, vous prenez quelque chose qui va vous prendre du temps et qui va... D'accord, ok.
Voilà.
Vous avez travaillé dessus combien d'années, combien de mois?
Alors, si on ramenait ça à un plein temps... Ça fait environ 2 ans, quoi. Mais en fait, il fallait que je gagne ma vie aussi, vous comprenez.
Et oui, donc à côté.
Et donc, la sculpture elle-même s'est étalée sur 4 ans et quelques, quoi.
Hein,
auparavant, il y a eu énormément d'esquisses et de trucs comme ça, quoi.
Et vous avez rencontré les gens que...
Alors, là, j'ai fait un... Donc j'ai attaqué ça parce que je travaillais au centre, je travaillais à une sorte de mi-temps dans le centre d'action culturelle. C'est là que j'ai rencontré une fois ou deux Louis Guillou. Hein. La ville m'avait loué un atelier, donc je pouvais travailler, quoi. Et je me suis lancé là-dessus, quoi, voilà. On l'a exposé la première fois en 81. Et j'avais commencé à dessiner en 76, quoi.
Et c'est un travail de journaliste que vous avez réalisé là.
Je rencontrais les gars, plusieurs hommes, femmes du Joint français, dans une MJC qui n'existe plus aujourd'hui, et où on mettait à ma disposition une salle, je me montrais mes dessins, tout ça, on m'apportait de la documentation photographique. Vous voyez, enfin, il y avait plein de c'est vrai que j'ai montré, il y a eu pas mal de gens, dont le gars qui secoue son copain CRS,
oui,
et qui ont participé, quoi.
À Nantes, à Rennes ou à Brest, licencie les entreprises aux ouvriers qualifiés. On dit c'est la crise, faudra-t-il faire ses valises pour les pays de misère où le patron délocalise pour enrichir ses actionnaires. Mais de ces disqualifiés, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de ces disqualifiés, qu'est-ce qu'on va en faire?
comme on vire les fonctionnaires, tra-la-la-la-l'air, sur les rôles du Pôle emploi, il y aura toujours trop de prolétaires. Il y a trop de chômeurs, il y aura du désordre, il faudra des uniformes pour maintenir l'ordre. Hitler le disait déjà, un chômeur c'est pas rentable, un soldat ça coûte moins cher et c'est bien plus raisonnable. Mais de tous ces engagés, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces engagés, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tra-la-la-la-l'air, taper sur les ouvriers, taper sur leurs frères. Ils s'en iront à la ville, tra-la-la-la-l'air, taper sur les ouvriers, taper sur leurs frères.
Alain Marcon, sculpteur d'histoire, homme de défi et de résistance, sur Dissonance.
Mais quand j'ai parcouru votre fresque, c'est comme quand j'ai découvert, étant gamin, le tympan de Conques avec cette fameuse histoire de la religion pour des gens qui n'étaient pas lettrés à cette époque-là au Moyen-Âge.
Ah oui, mais c'est le tympan de Conques, c'est quelque chose. Hein.
Voilà, et bien votre fresque, c'est pareil, c'est un tympan de Conques du XXe siècle.
Si on veut, mais... En fait, quand vous touchez à l'église, vous n'avez pas tout à fait tort, parce que le fait que j'ai voulu le faire en rond, comme ça, c'est pour reprendre le thème de l'abside. Hein, vous, Santa Maria de Taoul ou des choses comme ça, vous êtes, ouais, au milieu des peintures, vous ne pouvez jamais les voir en même temps. Et vous êtes obligé de vous déplacer, de remonter, de revenir en arrière, d'expliquer quelque chose qui est là par... quelque chose qu'il y avait avant et tout ça. Voilà.
Tout à fait. Et est-ce que vous vous êtes posé la question pendant la phase de réalisation de comment j'allais et où j'allais exposer cette œuvre?
Alors, elle a été exposée deux mois au Centre d'Action Culturelle auquel je travaillais, hein, qui avait pour directeur un homme qui s'appelle André Feller, qui est mort il y a quelques mois et qui était un type assez formidable. Donc on l'a montré là pendant deux mois. Puis après, la dame, elle est rentrée en boîte, quoi. Alors, je l'ai montrée dans la banlieue parisienne, hein, une municipalité communiste qui me l'avait demandé. Et puis, après, elle a complètement disparu. Enfin, disparu, elle était chez moi, quoi, dans, ouais, des boîtes. Elle n'est ressortie qu'en 2006. Donc, parce que Issoudun, le musée Saint-Roch à Issoudun, ce qui est un musée assez formidable, et le musée de Vannes, qui est aussi un endroit assez étonnant, m'ont consacré une rétrospective, si vous voulez, quoi. J'avais 60 balais, quoi. Hein. Bon,
ouais.
Donc, j'avais vu pour eux, quoi. Donc, ils m'ont consacré une rétrospective où on a montré le joint français, quoi.
Et ça a été, c'est une œuvre qui a été achetée par un musée.
Alors, c'est compliqué.
À la suite,
j'ai ressorti le joint français en 2008 parce que j'étais invité d'honneur d'une grosse machine. Et là, j'ai mis le joint français. Et là, du coup, le maire de l'époque a refusé de venir inaugurer au milieu du joint français. Et donc, voilà. Et alors, donc, dernièrement, si vous voulez. C'est assez marrant parce que on me téléphone et puis il y a 3 ans à peu près, c'était des anthropologues qui faisaient une mission sur Saint-Brieuc, qui sur l'histoire de tout ça, et puis ils me disent mais on pensait même pas que vous étiez encore vivant. Et, oui. Et donc ils me demandent, et on va faire une exposition pour le cinquantenaire de la grève de juin français. Est-ce que vous acceptez de nous le prêter, quoi?
Oui.
Donc on l'a mis. Alors là, évidemment, il y a eu des réactions. Les gens, presque personne ne savait que ça existait, quoi. Alors il y a eu des réactions qui ont commencé à dire à la mairie, il faut absolument acquérir ça, il faut que ça rentre au musée et tout ça. Donc bon, c'est la mairie a commencé à dire bon, on va voir tout ça. Et puis donc il se passe qu'à ce moment-là, les conservateurs avaient envoyé des photos comme ça. Et là, les musées de France ont bougé. Ils ont dit mais c'est, il faut acheter ça. On va participer. Et donc ils ont payé un quart, quoi, voilà. Alors comme la mairie mettait l'autre quart, on s'est retrouvé avec la moitié. Et le conservateur a eu l'idée de faire une souscription.
C'est génial, une campagne participative afin de
financer. Voilà. Donc on a même largement dépassé le truc, quoi.
Mais c'est très bien parce que ce côté solidaire, on le retrouve dans votre œuvre et on le retrouve dans l'achat de l'œuvre. Ça fait un tout, quoi.
Ça fait un tout et ça j'avoue que ça me plaisait bien.
Ah ben ouais, tout à fait, ça.
Ah, ça correspond à l'esprit de l'œuvre, quoi.
Donc la mairie a acheté, enfin le musée d'art et d'histoire de Saint-Brieuc a acheté l'œuvre, mais maintenant il faudrait qu'il la fasse vivre.
Alors, on l'a ressorti pour les journées du patrimoine, là.
Ah, très bien.
Donc on l'a ressorti pendant une semaine, quoi, à peu près. Ah. Maintenant, le musée de Saint-Brieuc, il bat de l'aile un peu, hein. Il n'ouvre que 2 jours par semaine, et même pas le week-end, enfin c'est pas formidable. Alors, par contre, étant donné que les musées de France se sont mêlés de l'affaire, quoi, il y a des demandes, quoi. Enfin, il y a des contacts qui ont été pris avec le conservateur. Apparemment, ça pourrait soit être montré à Rennes, soit au MUCEM, je crois. Il semble qu'il y ait un contact, mais vous savez, c'est des grosses institutions. Hein, ça prend un temps infini.
C'est lourd des fois. Et tout à l'heure, vous avez évoqué une rétrospective. Vous avez dit, j'avais 60 ans, il me trouvait vieux. Est-ce que vous avez toujours...
Je ne sais pas qu'il me trouvait vieux, mais c'est quand on m'a appelé, c'était il serait temps de me remontrer. c'était un petit peu... On avait un peu l'impression qu'ils attendaient un enterrement, quoi.
Aujourd'hui, vous avez toujours la même envie, la même passion que celle qui vous animait quand vous étiez gamin et que vous êtes mis à créer.
Oh bah oui.
C'est vrai, tout le jour vous vous levez le matin en vous disant...
Je vais travailler, bon, aujourd'hui j'ai plus la force de tailler toute la journée. Hein.
Ouais.
Et oui. J'arrive à... Bon, pour ce qui est de la taille directe, quand même c'est une épreuve physique, hein. J'ai les reins qui, j'ai les cervicales qui se bloquent assez vite, des trucs comme ça, mais je peux travailler 3-4 heures par jour. Puis je fais de la gravure, je dessine, je travaille tous les jours, oui.
Et vous continuez à exposer parce que je crois que vous avez...
Je vais faire une expo, là, elle va commencer le 16 novembre.
Du 16 novembre, et elle s'arrête ?
À la mi-janvier. Alors c'est une petite galerie à Saint-Brieuc, la galerie du Passepartout.
La galerie du Passepartout, là, pour les auditeurs normands ou bretons qui nous écoutent. Et vous avez pu vivre de votre passion toute votre vie. Et vous continuez à en vivre d'ailleurs.
Oui. Mais oui, enfin, bon, il y a eu des périodes, je veux dire, au tout début. En plus, j'étais marié à l'époque et ma femme avait une mauvaise santé, donc c'était, je produisais pas autant que j'ai fait dans les dernières années, quoi. Parce que j'étais obligé de faire tout un tas de trucs. Enfin, faire tout un tas de trucs, c'était au centre d'action culturelle, par exemple, ah oui. je faisais un atelier de sculpture populaire, quoi, où tout le monde pouvait venir, quoi. Je faisais aussi, vous savez, de la mise en scène pour des stands de foire, des trucs comme ça, quoi, des choses latérales, quoi.
On retrouve de ces graines un petit peu, il me semble, à vous entendre et à découvrir vos œuvres, un petit peu d'anarcho-syndicalisme de votre papa.
C'était pas mon père.
De votre grand-père, pardon.
Oui.
De votre grand-père, il me semble. Votre approche de l'art, le contenu que vous choisissez de travailler, de mettre en avant.
Oui, bah oui, c'est certain. Oui, c'est ça. Oui, si vous voulez mettre un petit peu de musique dedans, vous pouvez mettre graines d'ananas, de Ferret.
Ah ben on va le mettre. Et en conclusion, Alain Marcon, si vous aviez à décrire votre façon de travailler, de créer, de réinterpréter le monde dans vos sculptures, dans vos bas-reliefs, vos gravures, vos dessins, si vous aviez à décrire ce qui fait unité artistique dans votre démarche créatrice, qu'en diriez-vous ?
Bah, pas grand-chose. Non, je sais pas. Vous savez, en général, quand je fais une exposition, on me demande toujours de parler. Alors je dis non, ce que je fais doit se défendre tout seul.
C'est vrai, parce qu'en fait, vous êtes en symbiose avec ce que vous faites. Hein, quand on voit vous.
Voilà, il faut que ça se défende tout seul, puis c'est bon. J'ai pas une théorie de ce que je fais.
Merci beaucoup, Alain Marcon.
Vous retrouverez sur la page internet de Dissonance diverses informations qui complètent cette émission, ainsi que de nombreuses photos des créations d'Alain Marcon.
Eh bien, dans la vie, il y a des graines qu'il n'est pas recommandé de semer. J'en connais une. C'est une graine d'homme, de ces hommes qu'on appelle les anards. En voici un que j'ai appelé « Graine d'ananas ».
Salut.
Et fraternité.
La vie m'a doublé, c'est pas régulier. Pour un pauvre lézard qui vit par hasard dans la société. Mais la société, je veux pas m'en mêler. Je suis un petit papa, une graine d'ananas. On me dit que j'ai poussé en dessous d'un gibet où mon grand-papa balançait déjà avec un collier. Un collier tressé de chanvre, il était un foutu foulard à graines d'ananas. J'avais des copains qui mangeaient mon pain, car le pain c'est fait pour être partagé dans notre société. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Jésus-Christ, un foutu bavard à gueule d'ananas. Si j'avais des sous, on me demanderait où les as-tu gagnés sans avoir trimé pour la société. Mais comme j'en ai pas, faut lui dire pourquoi c'est jamais peinard, la graine d'ananas. On me dit que c'est fini, je vous le dis comme on le dit, et qu'on me pendra au nom de la loi et de la société. La belle société qui se met à se mêler de mettre au rancard la graine d'ananas. Potence d'oubli, l'oiseau fait son nid. Messieurs les corbeaux passeront ma peau comme à l'étamine. Mais auparavant, j'aurai comme le vent semé quelque part ma graine d'ananas.